Je prends un peu au pied de la lettre cet intitulé de la voix d'un texte, de la voix d'un auteur. Et s'agissant de Chateaubriand, on ne va pas raconter comme faisait un de mes professeurs de lettres dans un des lycées de la Montagne Sacrée qui avait inventé ce concept du vieuvre. Pour la semaine prochaine, nous étudierons Pascal, vieuvre. Et le vieuvre, évidemment. Donc je ne ferai pas la biographie de Chateaubriand. Je vais essayer de partir d'un point originel qui me paraît, dans l'ordre de la métaphysique ou de l'esprit, un point de départ, et à travers les textes qui seront lus, nous allons essayer de voir comment, à partir de ce premier vide ou de cette première absence, à la fois centrale et originelle, s'est propagé, s'est créé, s'est constitué un espace qui est venu habiter une voix. La voix de la sylphide, la voix de Sainty, la voix de l'auteur, la voix qu'on entend aussi bien dans les Natchez que dans l'itinéraire à Jérusalem, dans les mémoires que dans le génie du christianisme, qui retentit depuis les coups de marteau du Kalfa que l'on entend sur le port de Brest, jusqu'au son d'horloge qui s'égrène pendant que meurt Madame de Beaumont. Et je voudrais essayer, à travers ces lectures, qu'on voit ensemble, qu'on entende plutôt, comment la littérature est un fait d'oralité, que le discours n'est jamais que parole vive, et que c'est bien à tort que l'on transforme en objet, donc qu'on spatialise quelque chose qui est foncièrement ordonné à l'ordre des successions, un mot après l'autre, un pas après l'autre. Cela doit progresser et procrastiner en faisant un objet textuel, une structure, comme on disait il y a 30 ans, alors que c'est une voix. Et Chateaubriand est une occasion merveilleuse de le voir. Je partirai d'un premier texte qui n'est pas dans la série, mais qui est très court. À Jérusalem, Chateaubriand entend la prolifération des diverses obédiences chrétiennes, des divers rituels, qui, tour à tour et presque toutes en même temps, célèbrent, lors de la Pâque, la crucifixion, et cette multitude de rites entendus, qu'il entend se réverbérer sur les murailles, sur les temples, sur les collines de Jérusalem, déclenche chez lui une rêverie qui peut-être nous révèle cette origine métaphysique de sa poétique, dont je vous parlais à l'instant. Du fond des arcades, où ils se sont nichés comme des colombes, du fond des chapelles et des souterrains, ils font entendre leurs cantiques à toute heure du jour et de la nuit. L'orgue du religieux latin, les cymbales du prêtre abyssin, la voix du caloyer grec, la prière du solitaire arménien, l'espèce de plainte du moine copte frappe tour à tour votre oreille. Vous ne savez d'où partent ces concerts. Vous respirez l'encens sans voir la main qui le brûle. Seulement, vous voyez s'enfoncer derrière les colonnes, se perdre dans l'ombre du temple, le pontife qui va célébrer les plus redoutables mystères au lieu même où ils se sont accomplis. Cet écartement du prêtre, invisible et reculé dans l'ombre, que l'on entrevoit à travers une colonnade, juste en ce point même d'où partit le christianisme. Cet essor de l'esprit qui se manifeste avec l'encens, à travers la profondeur d'une étendue, incertaine et vague, mais que l'on sent repliée autour d'elle-même, autour d'un centre, lui-même invisible et mystérieux, d'un centre qui nous échappe, tout comme le contour qui ne se voit, dans cette étendue creuse, sonore. Nous n'avons que la figuration d'une absence. Et quelle absence ? Celle du Christ. Et dans cette immanence creuse qu'est la Jérusalem de Chateaubriand, réverbère cette pluralité d'échos rituéliques divers, l'orgue latin, le copte, venus de différents rites. Mais elle n'est là, cette pluralité de rites, que pour faire sentir au cœur même de la présence au monde une absence, l'absence d'un corps premier, une absence éternelle, une absence infinie, celle du Christ. Et nous avons là une espèce de transcendance vide, d'horizon ou d'eschatologie, mais sans contenu. Et tout commence avec cet acte religieux, parce que je crois profondément à la spiritualité de Chateaubriand. Tout commence par cette résurrection qui, par les rites divers, est confondue, répercutée dans l'enceinte des collines et des temples, ressuscite à leur tour, et tour à tour, le mystère d'une première résurrection, sur quoi l'Écriture vient, résurrection d'une résurrection, par la magie d'une voix, ressusciter ce qui n'est jamais et ne sera jamais plus qu'une absence. Et donc c'est cet infini négatif fait tout le creux d'où part la voix de Chateaubriand et qu'il va essayer d'entendre, de récupérer en cela, l'envoyant à lui-même réverbérer d'écho en écho, de solitude en solitude, de désert en désert, jusqu'à jalonner cette étendue de vide, de silence, d'absence, à partir de laquelle, au moyen de réverbération, d'écho, il essaie de récupérer quelque chose qui résonne en lui dans la cavité intérieure et qui est précisément la voix des mémoires.
Les Natchez s'ouvrent par une invocation au désert et à l'astre des nuits, divinité suprême de ma jeunesse. À l'ombre des forêts américaines, je veux chanter des airs de la solitude, tels que n'en ont point encore entendu des oreilles mortelles. Je veux raconter vos malheurs, ô Natchez, ô nation de la Louisiane, dont il ne reste plus que les souvenirs. Les infortunes d'un obscur habitant des bois auraient-elles moins de droits à nos pleurs que celles des autres hommes? Et les mausolées des rois dans nos temples sont-ils plus touchants que le tombeau d'un Indien sous le chêne de sa patrie? Et toi, flambeau des méditations, astre des nuits, sois pour moi l'astre du Pinde. Marche devant mes pas, à travers les régions inconnues du Nouveau Monde, pour me découvrir à ta lumière les secrets ravissants de ces déserts. Mes deux natures sont confondues dans ce bizarre ouvrage, particulièrement dans l'original primitif. On y trouve des incidents politiques et des intrigues de romans. Mais à travers la narration, on entend partout une voix qui chante et qui semble venir d'une région inconnue.
Vous voyez, dans ce paragraphe des mémoires, Chateaubriand évoque sa carrière littéraire et la parution des Natchez. Et on entend la voix des Natchez à travers la citation qu'il donne dans le texte des mémoires. On sent bien la différence de niveau rhétorique entre la narration autobiographique qui marche comme le sermon au pédestère et puis l'élan plus rhétorique, plus convenu aussi à l'ombre des forêts américaines, « Ô Natchez, ô nation de la Louisiane » qui est la citation du texte original et originelle des Natchez. Et j'y relèverai simplement une formule récurrente qui est la négation exceptive, le ne que ou le ne plus que. C'est surtout d'ailleurs sous la forme de la négation exceptive temporelle, ne plus que le dernier des, le dernier des avant-serrages, le dernier des Mohicans, le dernier des se présente dans les mémoires. Ô Natchez, dont il ne reste plus que des souvenirs, dont il ne reste plus que des souvenirs. Et lui, cette voix, qu'il récupère à travers la citation, il est le dernier, à l'ultime moment, qui récupère le soupir, comme dans la mort de Madame Récamier. Le mot désert, pour me découvrir à ta lumière les secrets ravissants de ce désert. Le désert est évidemment la figure spatiale de cette étendue vide qui résonne dans l'ombre de la Jérusalem que je vous citais tout à l'heure. Et puis nous voyons bien que c'est de la nuit américaine, déjà une première fois réverbérée à travers le voyage en Amérique, à travers le roman, Les Natchez, que revient la mention pour l'auteur de l'origine de son écriture. Dans ses fictions de ma jeunesse, on entend partout une voix qui chante, même si c'est hétérogène, même si dans Les Natchez on voit de la politique en même temps que des intrigues de roman, on entend quand même l'unité d'une voix, on entend partout une voix qui chante et qui semble venir d'une région inconnue. C'est cette région inconnue, ce point focal, que je voudrais essayer qu'ensemble nous fassions entendre aujourd'hui. Alors, si l'on cherche, par exemple avec Jean-Pierre Richard, quelles sont les sensations qui peuvent rendre à l'oreille sensible des choses comme le vide, l'étendue, l'absence, rendre sensible à une oreille le silence, l'absence de bruit. De faire entendre dans une parole vive son contraire, savoir la mort. On voit bien qu'à ce moment-là, ce n'est pas du côté des coloris, de la poudre fardée des couleurs, du côté de l'espace, du côté des formes et des contours, mais du côté du sonore, de l'auditif, qu'il faut que l'écrivain se tourne. Et notamment à travers ces bruits qui ont tous en commun d'être répétitifs, que l'on retrouve comme une scansion dans tous les mémoires d'outre-tombe. Les aboiements, de loin en loin. Les coups de marteau du Kalfa, dans l'évocation du port de Brest, que je citais à l'instant. Ou bien les coups de canon d'un vaisseau qui met à la voile. Des cris d'oiseaux répétés de lieu en lieu. À Brandebourg, le cri de la sentinelle qui siffle d'heure en heure dans le silence de la nuit. À Combourg, les bruits des pas du père qui s'éloignent et l'on n'entendait plus dans le silence que le bruit de ses pas. Sonnerie de cloche, des glas notamment, et sensation vraiment élective chez Chateaubriand, les gouttes de pluie. Tous ces bruits répétitifs créent en se succédant l'attente de leur retour. N'est-ce pas la même la formule de la poésie? Puisque c'est le poème est fait de vers, de versus, et que le versus est retour. Et créer un horizon d'attente, phénoménologiquement, n'est-ce pas faire apparaître ce au milieu de quoi se constitue cette attente? Et comme les origamis japonais, voilà que va se déployer sur une absence, tout un monde de présence à travers des bruits que réverbère le silence. On pourrait, ça aussi c'était pas dans les textes, mais c'est très court.
Là, ne voyant plus qu'une vallée tourbeuse, mais entendant encore le murmure confus de la mer et la voix des hommes, je me couchais au bord de la petite rivière, tantôt regardant couler l'eau, tantôt suivant des yeux le vol de la corneille marine, jouissant du silence autour de moi, ou prêtant l'oreille au coup de marteau du Kalfa, je tombais dans la plus profonde rêverie. Au milieu de cette rêverie, Si le vent m'apportait le son du canon d'un vaisseau qui mettait à la voile, je tressaillais et des larmes mouillaient mes yeux.
Pardon. Gorin, qui a juste des citations courtes qui ne sont pas... Je mets à contribution le talent.
Je suis là pour ça. Quand il n'y a pas de fête à la cour pour le mariage du grand-duc et de la grande-duchesse Nicolas, je reste chez moi. Enfermé seul auprès d'un poêle à figure morne, je n'entends que le cri de la sentinelle de la porte de Brandebourg et les pas sur la neige de l'homme qui siffle les heures. À quoi passerai-je mon temps? Des livres? Je n'en ai guère. Si je continuais mes mémoires...
Voilà d'où part l'inspiration d'un silence ponctué du cri du veilleur, d'heure en heure, et des pas qui s'éloignent. Et bien sûr, on ne saurait en trouver meilleure illustration qu'un passage fameux entre tous, que vous allez avoir le plaisir de reconnaître.
Depuis la dernière date de ces mémoires, Vallée au Loup, janvier 1814, jusqu'à la date d'aujourd'hui, Montboissier, juillet 1817, 3 ans et 6 mois se sont passés. Avez-vous entendu tomber l'Empire? Non. Rien n'a troublé le repos de ces lieux. L'Empire s'est abîmé pourtant. L'immense ruine s'est écroulée dans ma vie, comme ces débris romains renversés dans le cours d'un ruisseau ignoré. Mais à qui ne les compte pas? Peu importe les événements. Quelques années, échappées des mains de l'Éternel, feront justice de tous ces bruits par un silence sans fin. Le livre précédent fut écrit sous la tyrannie expirante de Bonaparte et à la lueur des derniers éclairs de sa gloire. Je commence le livre actuel sous le règne de Louis XVIII. J'ai vu de près les rois et mes illusions politiques se sont évanouies, comme ces chimères douces dont je continue le récit. Disons d'abord ce qui me fait reprendre la plume. Le cœur humain est le jouet de tout. Et l'on ne saurait prévoir quelles circonstances frivoles causent ses joies et ses douleurs. Montaigne l'a remarqué. Il ne faut point de cause, dit-il, pour agiter notre âme. Une rêverie sans cause et sans sujet la régente et l'agite. Je suis maintenant à Montboissier, sur les confins de la Beauce et du Perche. Le château de cette terre, appartenant à Madame la Comtesse de Colbert-Montboissier, a été vendu et démoli pendant la Révolution. Il ne reste que 2 pavillons séparés par une grille et formant autrefois le logement du concierge. Le parc, maintenant à l'anglaise, conserve des traces de son ancienne régularité française. Des allées droites, des taillis encadrés dans des charmilles, lui donnent un air sérieux. Il plaît comme une ruine. Hier au soir, je me promenais seul. Le ciel ressemblait à un ciel d'automne. Un vent froid soufflait par intervalles. À la percée d'un fourré, je m'arrêtais pour regarder le soleil. Il s'enfonçait dans des nuages au-dessus de la tour d'Aluy, d'où Gabrielle, habitante de cette tour, avait vu comme moi le soleil se coucher il y a 200 ans. Que sont devenus Henri et Gabrielle? Ce que je serais devenu quand ces mémoires seront publiées. Je fus tiré de mes réflexions par le gazouillement d'une grive perchée sur la plus haute branche d'un bouleau. À l'instant, ce son magique fit reparaître à mes yeux le domaine paternel. J'oubliais les catastrophes dont je venais d'être le témoin et, transporté subitement dans le passé, je revis ces campagnes où j'entendis si souvent siffler la grive. Quand je l'écoutais alors, j'étais triste de même qu'aujourd'hui. Mais cette première tristesse était celle qui naît d'un désir vague de bonheur lorsqu'on est sans expérience. La tristesse que j'éprouve actuellement vient de la connaissance des choses appréciées et jugées. Le chant de l'oiseau dans les bois de Combourg m'entretenait d'une félicité que je croyais atteindre. Le même chant dans le parc de Montboissier me rappelait des jours perdus à la poursuite de cette félicité insaisissable. Je n'ai plus rien à apprendre. J'ai marché plus vite qu'un autre et j'ai fait le tour de la vie. Les heures fuient et m'entraînent. Je n'ai pas même la certitude de pouvoir achever ces mémoires. Dans combien de lieux ai-je déjà commencé à les écrire et dans quel lieu les finirai-je? Combien de temps me promènerai-je au bord des bois? Mettons à profit le peu d'instants qui me reste. Hâtons-nous de peindre ma jeunesse, tandis que j'y touche encore. Le navigateur, abandonnant pour jamais un rivage enchanté, écrit son journal à la vue de la terre qui s'éloigne et qui va bientôt disparaître.
Nous retrouvons là le point d'origine. On écrit à la vue d'une terre qui s'éloigne et va bientôt disparaître. On est toujours sur ce seuil, ce limen de l'ultime. Je suis le dernier de ma lignée, physique et spirituelle et politique. Ce sont les derniers moments de ma vie. Et aux dernières heures avant le grand départ, tandis que la rive enchantée s'éloigne, comme un navigateur, homme des houles et des vents, j'écris le journal de bord. C'est donc bien devant une étendue désolée, le ciel d'automne du parc de Montboissier, face à ce parc que la Révolution a démoli et dont il ne reste que deux pavillons, ceux du gardien avec la grille au milieu, devant ce parc absolument vide, qui a gardé quelque chose sous son travestissement à l'anglaise, de la régularité à la française, que soudain surgit de l'excitation de ce plan immensément vide et presque sans horizon, une verticale. Le bouleau est à sa plus haute branche. Un son part, et de ces sons, par nature répétitifs, que sont les trilles d'un chant d'oiseau. Ce n'est pas là un son continu, c'est un son vibré, trémulant, et que rythme cette trille, sinon l'absence, l'absence des rois, le parc a été détruit, l'absence des propriétaires, la révolution les a emportés, l'absence du château, car il ne reste que le parc. C'est bien le symbole d'un vide, d'une absence. Et du creux de cette absence, comme dans l'enceinte obscure de la pénombre de Jérusalem, réverbère un chant qui, à lui seul, ramène l'auteur au temps de sa jeunesse. Et de ce temps évoqué, ou plutôt provoqué par l'écriture de sa jeunesse, au moment présent, au nunc de l'écriture autobiographique des mémoires. Et tout le passage est une scansion de « depuis jusqu'à ». Depuis lors, jusqu'à ce moment-là. Tum nunc. Tunc nunc. Tantôt, tantôt. Cette fois, la scansion est en depuis jusqu'à. Depuis la dernière date de ses mémoires, Vallée au Loup, janvier 1814, jusqu'à la date d'aujourd'hui, Montboissier, juillet 1817. Et donc, il s'agit de mesurer cet espace de 3 ans et demi. Qui est en fait un vide. Je suis maintenant à Montboissier, c'est par intervalle, à la percée d'un fourré, au milieu du vent, qu'on regarde le soleil disparaître. Il ne disparaît pas en continu, puisqu'il disparaît à travers les fourrés. Donc il est tantôt masqué, tantôt révélé et diffracté par le feuillage. On a encore une intermittence qui scande une durée. Et bien sûr, mise en abîme par la sensation, avant même le souvenir personnel du parc de Combourg, c'est le souvenir historique de Gabriel d'Estrée et d'Henri IV qui ont abrité leurs amours à Montboissier dans une tour aujourd'hui disparue. Que sont-ils devenus, Henri et Gabriel, ce que je serai devenu quand ces mémoires seront publiées, c'est-à-dire outre-tombe, dans la mort. Et donc, après cette évocation historique, Il y a le transport personnel. Je me trouvais transporté subitement dans le passé. Je revis ces campagnes où j'entendis si souvent, le côté fréquentatif, répétitif, récursif des sons. C'est très intéressant, la récursivité et la réverbération dans l'écriture, parce que c'est une des conditions essentielles de l'écriture, savoir le rythme. Et de même qu'il n'y a pas de discours sans style, il n'y a pas de littérature sans rythme. Même Houellebecq a un rythme. Terrible. Et ce qu'on trouve, une première tristesse, la tristesse d'aujourd'hui, et que saisir, que chercher à saisir dans cette réverbération, cette évocation d'écho, sinon cette félicité insaisissable, celle que déjà poursuivait René, levez-vous donc, orage désiré, saisir l'insaisissable, faire entendre les sons du silence, mesurer le vide par des échos qui réverbèrent et reviennent vers la source qui a produit le son originel. Évidemment, cet espace vide va être peuplé de bruits fétiches, alors que, vous voyez, chez Proust, c'est une sensation gustative, celle de la petite madeleine, qui provoque la réminiscence affective. Chez Chateaubriand, ce sont toujours des sons, et toujours des sons répétés. Le marteau du calfat, le battement de l'horloge, le bruit de la cloche, les pas qui s'éloignent, les cris, les trilles, les roulades du rossignol, du loriot, de la grive dans le parc de Montboissier. Toujours, nous avons cette solitude, cette immensité insaisissable, qu'elle soit absence, félicité, vide ou autre, entrecoupée, ponctuée par des bruits. Donc ce sont tantôt du silence entrecoupé par des sons, tantôt des sons entrecoupés par le silence. Et cette formule, sous ces deux formes, est récurrente, apparaît plusieurs fois dans les mémoires. Ce n'était qu'un silence entrecoupé et des sons entrecoupés. On n'entendait plus que des sons entrecoupés de silence. Un dernier exemple que j'aime bien, c'est lorsqu'il évoque la bataille de Waterloo. Mais je ne pouvais pas faire propos avec les textes, les grands textes, les seuls 5 ou 6 textes prévus pour la lecture, donc il fallait bien que j'en ai d'autres citations. Mais là encore, j'ai plaisir à mettre à contribution.
Je prêtai l'oreille. Je n'entendis plus que le cri d'une poule d'eau dans des joncs.
Ne plus que.
Et le son d'une horloge de village. Je poursuivis ma route. Je n'avais pas fait 30 pas que le roulement recommença, tantôt bref, tantôt long, et à intervalles inégaux. Quelquefois, il n'était sensible que par une trépidation de l'air, laquelle se communiquait à la terre sur ses plaines immenses, tant il était éloigné. Ces détonations moins vastes, moins onduleuses, moins liées ensemble que celles de la foudre, firent naître dans mon esprit l'idée d'un combat. Je me trouvais devant un peuplier planté à l'angle d'un champ de houblon. Je traversai le chemin et je m'appuyai debout contre le tronc de l'arbre, le visage tourné du côté de Bruxelles. Un vent du sud s'étant levé m'apporta plus distinctement le bruit de l'artillerie. Cette grande bataille, encore sans nom, dont j'écoutais les échos au pied d'un peuplier et dont une horloge de village venait de sonner les funérailles inconnues, était la bataille de Waterloo.
Le bain.
Voilà. Merci. Vous voyez comment, à glaner, il faut passer les textes comme ça au sas, à l'étamine, et petit à petit, comme dans la bâtée du chercheur d'or, vous avez des pépites sensorielles qui s'accumulent. Elles se signalent à la fois par leur brillant et par leur répétition. Et il y a des passages où ça se concentre, et tout d'un coup, ce n'est plus que de l'or ou plus que du jaspe, et les mêmes formules canoniques ou fétiches sont toutes là, presque, réunies. Il n'y a plus qu'à serrer la main pour tenir le lièvre vivant et chaud, au gîte. Car sinon, la littérature n'est plus qu'un cadavre. et même s'il est exquis, ça ne nous importe pas beaucoup. Tandis que là, le mort nous saisit, nous, tout vifs que nous sommes, puisque nous nous prêtons la vie de notre âme et notre temporalité à travers les opérations énonciatives que nous reconstituons à l'appel de la portée, de la partition qu'est le texte, et nous nous retrouvons dans cette position qui fut la sienne au moment où il écrivait, l'ultime instant, le dernier moment devant le vide dans lequel on essaie de réverbération en réverbération provoquée ou perçue, de percevoir et de récupérer, de retenir quelque chose qui résonne dans le vide de la cavité intérieure. Car qu'est-ce que le moi ? Un rien, la trouble, le trouble et l'agite, comme disait Montaigne, cité par Chateaubriand. Un impalpable. Comment rendre visible l'invisible ? C'est la formule de tous les peintres. Comment faire entendre le silence ? Ou plutôt, le vide et l'absence, le désert intérieur, qui est tout ce qui reste d'une vie d'homme, si prestigieuse qu'elle ait pu être à travers ses tribulations politiques. Eh bien, le grand chef à plume ne se trouve plus, lorsqu'il est sur la grève, au moment du dernier embarquement, que creux, que vide, que silencieux, qu'abandonné dans la déréliction, et, cherchant à se récupérer, je faisais souvent à mes élèves une comparaison. Je disais, l'œil explore très bien la surface des choses. Supposez que vous avez une boîte de conserve devant vous, sur une étagère. Est-elle pleine ? Est-elle vide ? L'œil vous le dira-t-il ? Bien sûr, si le couvercle baie, aucun doute. Mais enfin, elle peut avoir servi à tout autre usage, être retourné, on ne voit pas qu'elle est vide. Et l'œil aura beau l'explorer, parcourir tout, refaire le tour de l'étiquette. Le doigt, même pour un aveugle, donne tout de suite, toc, 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 l'exploration de l'intériorité. La voix qui résonne dans la poitrine, où Lucrèce plaçait la source de nos passions, la voix qui résonne dans la poitrine, parce qu'elle est charnelle, bien sûr, mais parce qu'elle est aussi séquentielle et ordonnée au temps, pulsa-t-il, ordonnée au pouls, à la respiration, vibra-t-il, avec ses soupirs, ses frémissements, ses murmures, est la seule chose qui puisse, comme un métronome intérieur, battre le tempo à quoi se réduit finalement l'existence, comme lorsque Rousseau, au bord du lac de Bienne, entend le flux et le reflux. Et on est vraiment ici dans le même ordre d'expérience existentielle, mais chez Chateaubriand, ça devient l'horizon de toute une écriture et de toute une vie. Nous ne sommes, quand on cherche bien, que ce qui peut nous donner conscience d'un pouls intérieur, du temps qui bat, alors que le temps n'est rien. Quoi de plus impalpable ? Et en fait, ces étendues que l'auteur des Natchez ou d'Atala ou du Voyage en Amérique ou de l'itinéraire de Paris à Jérusalem ou des Mémoires d'outre-tombe ne cesse d'évoquer, ces étendues, ces solitudes, ces immensités ne sont jamais qu'une évocation du silence intérieur à quoi se résume le dialogue ou le tête-à-tête de la conscience avec elle-même. Et là, pour faire parler ce qui ne parle pas, pour faire dire des choses à ce qui ne dit rien, il faut être un artiste souverain. Et voyez-vous, c'est pour ça, la citation de tout à l'heure, où on avait une citation des Natchez dans la citation de mémoire. On en sait très bien la rhétorique un peu apprêtée, fardée, poudrée, avec son rouge et son vermillon, « Oh, nation, Natchez », etc. Et puis une rhétorique qui nous paraît aussitôt beaucoup plus neutre, même si pour nous, aujourd'hui, habitués que nous sommes, pauvres que nous sommes, aux petites phrases à quoi nos médias réduisent le discours politique, il n'en reste pas moins qu'on sent bien de niveau de ton, quoi. Hein, ça parle comme du Mirabeau. C'est beau comme du Danton, et puis l'autre, ou du Lamartine. Et l'autre, on dirait presque du Hugo, quoi. C'est plus humble. Et pourtant, le charme de Chateaubriand et son mystère, son énigme, l'énigme de cette voix, c'est qu'on l'entend de l'intérieur, quand on l'entend. Et qu'à ce moment-là, c'est à une sorte d'effroi lucrétien, d'angoisse existentielle majeure, devant un vide spirituel, l'absence du ressuscité, que nous sommes convoqués. Ce qui fait que qui écoute Chateaubriand de l'extérieur n'entend rien. Si vous comparez avec Bossuet, voilà une éloquence qui est toute une, du dedans comme du dehors. Elle ne rend pas un son différent qu'on l'entende avec toute la distance historique et le recul de l'athée, ou qu'on l'entende avec la technique du spécialiste de stylistique et de rhétorique du XVIIe siècle. Ça ne bouge pas. Vous entendez le même truc. Madame se meurt, Madame est morte. C'est très beau, ça le fait, ça marche. Mais ça ne va ni plus à droite ni plus à gauche, ça ne vous bouge pas de là où vous êtes. Ça vous fait travailler l'esprit, ça ne vous bouge pas. Dans les Chateaubriand, ceux qui ne savent pas le lire, c'est comme pour Montaigne. Ils le lisent du dehors. Ça paraît apprêté, pompeux, que de falbala. Alors que dès qu'on se met à l'entendre de l'intérieur, c'est au gouffre, à l'abîme intérieur que nous sommes appelés, parce que c'est de là que ça parle. Et c'est aussi troublant que la racine de marronnier dans la nausée de Sartre. C'est pour ça que Chateaubriand, c'est tout autre chose. Mais ça, on ne veut pas le voir par une analyse de l'extérieur, en analysant des formes. On ne peut le percevoir qu'à travers une évocation. Parce que, originellement, ce n'est rien d'autre que provocation et évocation. Alors, je rappellerai simplement une liste de mots. Pour une première forme de l'étendue, qui est le temps, il y a bien sûr l'histoire, le temps. Et puis, il y a la mémoire, la réflexivité, la conscience face à elle-même. Et, dans un autre ordre, l'étendue. Désert, solitude, immensité. Le vide. Et toutes ces déclinaisons, le silence, l'absence, la célébration à rituels multiples de l'Eucharistie, la mort. Si l'on augmente la fréquence du bruit répété, je vous l'ai dit, on arrive au frémissement, au frisson. Et il y a un superlatif du frisson, qui est le murmure. Où là, même dans la forme phonique du mot, les syllabes se touchent, comme dans le su-son. Chuchotement, dans le mur, ou dans le su-surement. Su-surer, murmurer, chuchoter, c'est de faire vibrer la vibration même à travers la voix de ce temps intérieur que l'on cherche à capter à travers sa viduité même. C'est-à-dire, on cherche à jalonner des espaces ou des durées qui sont veuves, veuf de toute présence. La viduité, c'est le vide, c'est aussi le veuvage. Juste une petite citation très brève de René. Les sons que rendent les passions dans le vide d'un cœur solitaire ressemblent aux murmures que le vent et les eaux font entendre dans le silence d'un désert. On en jouit, mais on ne peut les peindre. Et comme à Combourg, j'y faisais allusion, les pas du père, le reste de la soirée, l'oreille n'était plus frappé que, ne plus que, du bruit de ses pas, des soupirs de ma mère et du murmure du vent. Le vent est le grand personnage avec les gouttes de pluie dans Chateaubriand. Les soupirs, les murmures, frissonnements, frissons, chuchotements. On comprend donc bien que Chateaubriand est avant tout l'énigme d'une voix et que, de préférence à tout autre, la voix soit elle-même le grand thème de l'écriture chez Chateaubriand. issus de la chair, explorant l'intériorité du corps sonore, mesurant, jalonnant l'étendue du silence, le seul moyen de retenir en soi du vide, par la transparence sonore, dit Jean-Pierre Richard, par la transparence sonore du langage insignifiant. Et cette rétention par la voix, c'est la littérature. Le navigateur écrit à la vue de la terre enchantée qui s'éloigne. Retenir, puisqu'on est le dernier des, et qu'on est à l'ultime instant de tout, avant que tout ne s'évanouisse et ne retourne au néant. Il n'y a guère qu'un autre que je vois avoir eu cette posture radicale d'écriture de l'ultime moment, du moment où on met le pied sur la margelle de l'abîme, du barâtre, du gouffre du Tartare, c'est Lucrèce. Et pour moi, Chateaubriand est dans le vide intérieur la même chose que Lucrèce dans l'abîme extérieur du Mare Magnum. Mais cette fois, les flots, avec tout, les flots que troublent les vents, viennent des tempêtes des passions. L'écriture va donc provoquer le vide, comme le doigt qui tape sur la boîte pour savoir si elle est pleine ou non. Elle va recueillir des échos répétés, toujours répétés, nous dit régulièrement Chateaubriand, de loin en loin. Toujours répétés, nous dit-il, par intervalles. Toujours répétés en s'éloignant. Elle recueille ses soupirs, ses murmures, qui toujours, nous dit-il, s'éloigne par degrés. Et tantôt aussi, tantôt là, comme dirait Amiot dans sa traduction de Plutarque, or-ci, or-là, de temps à autre, par intervalle, par degrés, retient quelque chose de notre conscience sous le regard de la mort. Il y a donc chez Chateaubriand une complicité, une connivence de la parole et de l'absence, de la parole et du silence. Et elle est comme un suspens dans lequel le moi essaie, comme dirait Montaigne, de s'entretenir, de s'entrefrotter, de s'entrelier avec lui-même grâce à et à travers la transparence creuse et sonore du langage. Et cela est la modernité, sans doute, de Chateaubriand. Les contemporains ont lié, voyez Maurice Blanchot, l'écriture à l'absence. Ou, comme chez le premier Derrida, celui de la grammatologie, à ce qui toujours dérive et s'écarte, faisant différence, R-A-N-C-E, d'avec le premier point, et s'écartant toujours. Vous savez, ça rappelle l'engendrement d'une spirale d'Archimède. On fait tourner un plan autour d'un de ces points, pendant que, depuis ce point origine, un curseur se déplace. Et ça vous fait les sillons du micro-sillon, la spirale, l'hélice d'Archimède. Cette différence, cette errance qui fait dissembler, différer de soi à soi, qui nous dissipe, qui nous disperse, qui nous désassemble, qui nous défait, qui nous désunit, c'est le vide intérieur, c'est l'angoisse de mort, et c'est évidemment d'où parle constamment Chateaubriand. Avec, bien sûr, un côté vieille France et une retenue de petits marquis qui peuvent agacer, mais il n'est pas loin du tout dans cette expérience, on n'est pas loin du tout dans cette expérience à la fois existentielle et scripturaire, de la modernité d'un Derrida ou d'un Blanchot. Évidemment, l'horizon de lecture d'un contemporain est forcément très différent, mais c'est nous allégorisons, nous réinterprétons, nous réapproprions les textes transmis du corpus à l'horizon des attentes et des questions de notre temps. Si nous leur posons des questions inédites, puisque ce sont les nôtres, les réponses que les textes nous renvoient ne peuvent être qu'inouïes. Chateaubriand ne pensait pas nécessairement à ça, mais on sent bien que nous sommes, en refaisant les gestes de la voix quand nous le lisons, dans la posture, cette posture que nous réoccupons après lui, cette posture dans la parole qui fut la sienne et qui est la signature de son écriture. Alors, on va arriver à ce passage sur lequel je voudrais m'attarder un peu, tout petit peu plus longuement. Et là aussi, c'est polyphonique, hein, c'est un texte qui dialogue. Il y a plusieurs voix, il y a des voix dans la voix, dans une cascade de voix dans ce texte.
Du fond de ma calèche, je regardais se lever les étoiles.
Il faut quand même peut-être, excusez-moi, le situer un tout petit peu.
Oui.
Donc, Chateaubriand est ambassadeur, il est le passage qu'il évoque, et il est allé rendre visite à Charles X dans son exil en Bohême. Il a vu cette ruine d'une ruine. Cette momie. Et sur le chemin de retour, il somnole dans la calèche, et à la faveur de la somnolence, il rêve. Voilà, vous pouvez y aller, du fond de ma calèche. C'était simplement pour situer la calèche. Pourquoi il est en calèche, notre homme ?
Du fond de ma calèche, je regardais se lever les étoiles. N'ayez pas peur, Sainty. Ce n'est que la susurration des roseaux inclinés par notre passage dans leur forêt mobile. J'ai un poignard pour les jaloux et du sang pour toi. Que ce tombeau ne vous cause aucune épouvante. C'est celui d'une femme jadis aimée comme vous. Cecilia Metella reposait ici. Quelle est admirable cette nuit dans la campagne romaine. La lune se lève derrière la Sabine pour regarder la mer. Elle fait sortir des ténèbres diaphanes les sommets cendrés de bleu d'Albano, les lignes plus lointaines et moins gravées du Soracte. Le long canal des vieux aqueducs laisse échapper quelques globules de son onde à travers les mousses, les encolis, les girofliers, et joint les montagnes aux murailles de la ville. Plantés les uns sur les autres, les portiques aériens, en découpant le ciel, promènent dans les airs le torrent des âges et le cours des ruisseaux. Législatrice du monde, Rome, assise sur la pierre de son sépulcre, avec sa robe de siècle, projette le dessin irrégulier de sa grande figure dans la solitude lactée. Asseyons-nous. Ce pin, comme le chevrier des Abruzes, déploie son ombrelle parmi des ruines. La lune neige sa lumière sur la couronne gothique de la tour du tombeau de Metella et sur les festons de marbre enchaînés aux cornes des bucranes, pompe élégante qui nous invite à jouir de la vie sitôt écoulée. Écoutez, la nymphe Égérie chante au bord de sa fontaine. Le rossignol se fait entendre dans la vigne de l'hypogée des Scipions. La brise alanguie de la Syrie nous apporte indolemment la senteur des tubéreuses sauvages. Le palmier de la villa abandonnée se balance à demi noyé dans l'améthyste et l'azur des clartés phébéennes. Mais toi, pâli par les reflets de la candeur de Diane, ô Sainty, tu es mille fois plus gracieuse que ce palmier. Les mânes de Délie, de l'Alagée, de Lydie, de Lesbie, d'Olympia, posées sur des corniches ébréchées, balbutient autour de toi des paroles mystérieuses. Tes regards se croisent avec ceux des étoiles et se mêlent à leurs rayons. Mais, Sainty, il n'y a de vrai que le bonheur dont tu peux jouir. Ces constellations si brillantes sur ta tête ne s'harmonisent à tes félicités que par l'illusion d'une perspective trompeuse. Jeune Italienne, le temps fuit. Sur ces tapis de fleurs, tes compagnes ont déjà passé. Une vapeur se déroule, monte et enveloppe l'œil de la nuit d'une rétine argentée. Le pélican crie et retourne aux grèves. La bécasse s'abat dans les prêles des sources diamantées. La cloche résonne sous la coupole de Saint-Pierre. Le plein chant nocturne, voix du Moyen-Âge, attriste le monastère isolé de Sainte-Croix. Le moine psalmodie à genoux les Ante Laudes sur les colonnes calcinées de Saint-Paul. Des vestales se prosternent sur la dalle glacée qui ferme leur crypte. Le Piferaro souffle sa complainte de minuit devant la Madone solitaire à la porte condamnée d'une catacombe. Heure de la mélancolie.
la religion s'éveille et l'amour s'endort. Sainti, ta voix s'affaiblit, il expire sur tes lèvres, le refrain que t'a pris le pêcheur napolitain dans sa barque vélivole ou le rameur vénitien dans sa gondole légère. Va aux défaillances de ton repos, je protégerai ton sommeil. La nuit dont tes paupières couvrent tes yeux dispute de suavité avec celle que l'Italie assoupie et parfumée verse sur ton front. Quand le hennissement de nos chevaux se fera entendre dans la campagne, quand l'étoile du matin annoncera l'aube, le berger de Frascati descendra avec ses chèvres. Et moi, je cesserai de te bercer de ma chanson à demi-voix soupirée. Un faisceau de jasmins et de narcisses, une ébée d'albâtre récemment sortie de la cavée d'une fouille ou tombée du fronton d'un temple gît sur ce lit d'anémone. Non, muse, vous vous trompez. Le jasmin, l'ébée d'albâtre, est une magicienne de Rome, née il y a 16 mois de mai et la moitié d'un printemps, au son de la lyre, au lever de l'aurore, dans un champ de roses de Paestum. Vent des orangers de Palerme qui soufflait sur l'île de Circé, brise qui passait au tombeau du Tasse, qui caressait les nymphes et les amours de la Farnésine, vous qui jouez au Vatican parmi les vierges de Raphaël, les statues des muses, vous qui mouillez vos ailes aux cascatelles de Tivoli, génie des arts qui vivez de chefs-d'œuvre et voltigez avec les souvenirs, venez, à vous seul, je permets d'inspirer le sommeil de Sainty. Et vous, filles majestueuses de Pythagore, parques à la robe de lin, sœurs inévitables assises à l'essieu des sphères, tournez le fil de la destinée de Sainty sur des fuseaux d'or, faites-les descendre de vos doigts et remontez à votre main avec une ineffable harmonie. Immortelle filandière, ouvrez la porte d'ivoire à ces songes qui reposent sur un sein de femme sans l'oppresser. Je te chanterai. Ô Canéphore des solennités romaines, jeune Charite nourrie d'ambroisie au giron de Vénus, sourire envoyé de l'Orient pour glisser sur ma vie, violette oubliée au jardin d'Horace.
Mein Herr, dit Kreutzer pour la parière, peste soit de toi avec tes cruches, j'avais changé de ciel, j'étais si en train, la muse ne reviendra pas, ce maudit Aigra où nous arrivons. Est la cause de mon malheur.
Alors, sans... Texte magnifique, évidemment, mais juste un petit jalonnage avant d'interroger un peu son énonciation feuilletée. Quelle est admirable cette nuit dans la campagne romaine. Alors, un espace, une étendue et une durée non peuplée, des instants sans événement, c'est la nuit. Une étendue sans présence, discernable, c'est l'obscur. Et la lune se lève, elle se lève derrière la Sabine, les monts de la Sabine. Le long des canals des vieux aqueducs, laisse échapper quelques globules de son onde à travers les mousses, les encoyers, etc. L'aqueduc, avec ses arcades, ses arceaux, ses portiques, transpose dans l'espace visible la réverbération. Vous pensez au galet qui rebondit, flop, 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 flop. Vous pensez aux échos qui réverbèrent en s'affaiblissant. Vous pensez au frémissement qui va diminuendo, à la vibration, decrescendo, et si vous transposez ça, le de en de désert en désert, de solitude en solitude, tantôt, tantôt, bien vous avez la figure des portiques, des colonnades ou des aqueducs. Aqueducs romains dont on trouve les ruines ignorées au fond d'un humble ruisseau, aqueduc romain toujours debout, où coule toujours le ruisseau des âges, le ruisseau des siècles et la mémoire. Et voilà un espace qui est à la fois une durée, puisque c'est le torrent des siècles, qui passe sur les portiques aériens, qui dit Chateaubriand, en découpant le ciel, en découpant le ciel. Et de cette hachure, de cette scansion, il fait aussitôt une continuité, puisque en découpant le ciel, il promène dans les airs le torrent des âges et le cours des ruisseaux. L'attelage, le zeugme est magnifique. Promener dans les airs le torrent des âges et le cours des ruisseaux. Le long canal des vieux aqueducs. À la fois la ponctuation, l'intermittence, l'intervalle, le degré par degré, et puis la continuité de la durée du temps. Et là, on entend se réverbérer d'autres voix que celles de l'auteur. Écoutez, la nymphe Égérie chante au bord de sa fontaine. Le rossignol fait entendre. Donc là, c'est encore l'auteur qui convoque des voix qui vont venir seconder ou relayer la sienne. Il apostrophe Sainty de façon à ce qu'elle prenne corps avec sa voix dans le texte par prosopopée, mais Sainty, il n'y a de vrai. Puis la voix de Sainty s'affaiblit, Sainty, ta voix s'affaiblit, il expire sur tes lèvres, le refrain que t'a pris le pêcheur napolitain dans sa barque vélivole. Et succède à la voix de Sainty la voix d'une égérie, d'une nymphe, inspirant la Sainty de Properce. Et là, dans cette mise en abîme qui se poursuit, plus on descend dans les souvenirs et dans les strates énonciatives, plus on monte dans les registres de l'orgue rhétorique. Et là, cette fois, c'est plein jeu, trompettes en chamade, et on nous fait entendre le grand air, un faisceau de jasmin et de narcisme, une ébée d'albâtre récemment sortie de la cavée, et puis on va encore monter encore, comme dans La Reine de la Nuit. Et vous, filles majestueuses de Pythagore, parques à la robe de lin, sœurs inévitables assises à l'essieu des sphères. Et boum, on retombe avec les cruchens, peste sur de toi, avec tes cruches, dans la réalité sur laquelle la rêverie se casse le nez. Alors, c'est un texte à la fois remarquable, parce qu'on y retrouve cette formule qui sera toujours la même. Une immensité non peuplée, vide, donc absence et silence, dans laquelle, du creux de laquelle, du vide de laquelle, naissent des voix, mais des voix provoquées, convoquées par la voix énonciative et par sa mémoire, ici littéraire. Properce, Tibulle, Virgile, on les a tous. Mais toi, pâli par les reflets de la candeur de Diane, ô Sainty, tu es mille fois plus gracieuse que ce palmier. Les manes de Délie, de Lalagée, de Lydie, de Lesbie, d'Olympia posées sur les corniches. Vous vous rappelez que les prêtres à Jérusalem étaient comparés à des colombes qui auraient niché dans des trous, tout alentour de l'endroit d'où parle l'auteur et où il entend se mêler ces différents rituels. Et nous retrouvons, comme les colonnes des aqueducs, ces images du colombier avec un oiseau dans chaque trou. Mais si l'on regarde maintenant simplement le feuilleté énonciatif, on entend plusieurs voix. La Sainty, alors celle de Chateaubriand, qui elle-même module selon qu'il est le narrateur de la réalité qui se casse le nez sur la barrière de la douane, et qui raconte, ou qu'il est le poète qu'il a rêvé d'avoir été au début de sa carrière littéraire, au temps d'Atala, des Natchez, de René. Poète qui lui-même n'est fait que de réminiscence, voix poétique qui n'est faite que de réminiscence, de l'élégie latine, de l'élégie romaine, que Paul Veyne trouvait si bêtement creuse. Les voix de l'histoire avec Cecilia Metella, la femme du triumvir Crassus. Son tombeau est un des plus beaux de la Via Appia, vous le savez. La porte d'ivoire évoquée, celle des songes trompeurs, chant 6 de l'Énéide. Délie évoque Tibulle, Lalagée, Lalagée et Ludia, c'est Horace, des Odes. lesbie, bien sûr, Catulle, et la nymphe Égérie, seule digne, dit l'auteur, d'inspirer Cynthie, subsume toutes ces femmes types, toutes ces nymphes inspiratrices, et toutes ces femmes, Égérie, Tibulle, Égérie, Délie, Lalagé, Lydie, Cynthie, Cécilia Metella, ont en commun d'avoir été les aimées de poètes fameux. Il n'y manque que Laure et Pétrarque. Elles ont vu leur nom dans une onomastique toute littéraire et très codée, devenir précisément un code générique, celui de la poésie personnelle et notamment de la poésie élégiaque. Et donc l'auteur des Mémoires d'Outre-Tombe, dans ce texte, inscrit de manière oblique sa propre énonciation dans le bruissement, un murmure de paroles antérieures. Et comme sur l'aqueduc se promène le ruisseau des siècles, dans son texte charrie les textes des autres, qu'il ne laisse pas de transmettre, en même temps qu'il les redit, ou mieux, qu'il s'en fait l'écho, mieux encore, qu'il essaie d'en écouter l'écho, comme quand, à Sparte, Chateaubriand, dans l'Itinéraire, nous dit qu'il a crié « Léonidas !» Et le pire du pire, c'est qu'aucun écho n'est revenu. Alors là, on est vraiment mort quand ça ne sonne plus du tout. C'est donc bien que l'essentiel, pour se sauver de la mort, c'est qu'encore que ça vibre, que l'étendue puisse vibrer à l'appel de la voix. Et donc, on voit bien comment l'intertextualité poétique, dans ce texte-là, parvient à creuser la voix énonciative, tout en tendant la corde de la lyre, jusqu'à porter la langue à ce surlangage qui est la langue de la poésie. Le présent se creuse d'un passé immédiat, c'était Vauvenargues à la retraite de Prague, c'est le Schiller, aussitôt après, du drame de Wallenstein. Entre les deux, la plaine de Bohême, une étendue, vide, parcourue par la lune, bleue, qui évoque un autre espace, bien plus loin, et dans un autre temps, la campagne romaine, si célèbre depuis les débuts isères de Rome, et son ambassade aussi, le présent, comme par des métastases, est envahi soudainement par un passé qui surgit par bouffées, par intervalles et par hypotypose, mais aussi par degrés, en même temps que l'intensité, que la distance s'allonge, l'intensité poétique ou la tonalité poétique cherche à s'élever. Et le texte donc installe dans son propos une métaphore de son fonctionnement intertextuel, et l'on voit bien comment fonctionne cette écriture, de réminiscence en réminiscence et d'écho en écho, tout comme elle provoque continuellement le silence et son vide. Et donc, on a ici la mise en scène de cette voix évocatrice et provocatrice qui cherche à se connaître au fort intime en lançant des voix qui peut-être vont se réverbérer sur la plaine des flots, sur les collines, sur les chutes du Niagara, dans le silence de la campagne américaine, de la nuit américaine, etc. Et ce brusque retour au présent qui nous fait descendre tout d'un coup tous les degrés que nous avions montés grâce à la mise en abîme de plusieurs sources énonciatives, d'écho en écho et de siècle en siècle. Alors, je crois que plutôt que de terminer par une péroraison, on pourrait terminer en écoutant un texte magnifique que je crois vous aimez beaucoup, qui est La mort de Pauline de Beaumont.
Mort de Madame de Beaumont. Le mieux que l'air de Rome avait fait éprouver à Madame de Beaumont ne dura pas. Les signes d'une destruction immédiate disparurent, il est vrai. Mais il semble que le dernier moment s'arrête toujours pour nous tromper. J'avais essayé deux ou trois fois une promenade en voiture avec la malade. Je m'efforçais de la distraire en lui faisant remarquer la campagne et le ciel. Elle ne prenait plus goût à rien. Un jour, je la menais au Colisée. C'était un de ces jours d'octobre tels qu'on n'en voit qu'à Rome. Elle parvint à descendre et alla s'asseoir sur une pierre en face d'un des autels placés au pourtour de l'édifice. Elle leva les yeux. Elle les promena lentement sur ces portiques morts eux-mêmes depuis tant d'années et qui avaient vu tant mourir. Les ruines étaient décorées de ronces et d'encolis safranées par l'automne et noyées dans la lumière. La femme expirante abaissa ensuite, de gradins en gradins jusqu'à la reine, ses regards qui quittaient le soleil. Elle les arrêta sur la croix de l'autel et me dit « Allons, j'ai froid ». Je la reconduisis chez elle. Elle se coucha et ne se releva plus. Je m'étais mis en rapport avec le comte de la Luzerne. Je lui envoyais de Rome par chaque courrier le bulletin de la santé de sa belle-sœur. Lorsqu'il avait été chargé par Louis XVI d'une mission diplomatique à Londres, il avait emmené mon frère avec lui. André Chénier faisait partie de cette ambassade. Les médecins que j'avais assemblés de nouveau, après l'essai de la promenade, me déclarèrent qu'un miracle seul pouvait sauver Madame de Beaumont. Elle était frappée de l'idée qu'elle ne passerait pas le 2 novembre, jour des morts. Puis elle se rappela qu'un de ses parents, je ne sais lequel, avait péri le 4 novembre. Je lui disais que son imagination était troublée, qu'elle reconnaîtrait la fausseté de ses frayeurs. Elle me répondait, pour me consoler, « Oh oui, j'irai plus loin ». Elle aperçut quelques larmes que je cherchais à lui dérober. Elle me tendit la main et me dit, « Vous êtes un enfant. Est-ce que vous ne vous y attendiez pas ?» La veille de sa fin, jeudi 3 novembre, elle parut plus tranquille. Elle me parla d'arrangements de fortune et me dit, à propos de son testament, que tout était fini, mais que tout était à faire et qu'elle aurait désiré seulement avoir 2 heures pour s'occuper de cela. Le soir, le médecin m'avertit qu'il se croyait obligé de prévenir la malade, qu'il était temps de songer à mettre ordre à sa conscience. J'eus un moment de faiblesse. La crainte de précipiter par l'appareil de la mort le peu d'instants que Madame de Beaumont avait encore à vivre m'accabla. Je m'emportai contre le médecin, puis je le suppliai d'attendre au moins jusqu'au lendemain. Ma nuit fut cruelle avec le secret que j'avais dans le sein. La malade ne me permit pas de la passer dans sa chambre. Je demeurai en dehors, tremblant à tous les bruits que j'entendais. Quand on entr'ouvrait la porte, j'apercevais la clarté débile d'une veilleuse qui s'éteignait. Le vendredi 4 novembre, j'entrai, suivi du médecin. Madame de Beaumont s'aperçut de mon trouble. Elle me dit, « Pourquoi êtes-vous comme cela ? J'ai passé une bonne nuit. » Le médecin affecta alors de me dire tout haut qu'il désirait m'entretenir dans la chambre voisine. Je sortis. Quand je rentrai, je ne savais plus si j'existais. Madame de Beaumont me demanda ce que me voulait le médecin. Je me jetai au bord de son lit en fondant en larmes. Elle fut un moment sans parler, me regarda et me dit d'une voix ferme, comme si elle eût voulu me donner de la force. Je ne croyais pas que c'eût été tout à fait aussi prompt. Allons, il faut bien vous dire adieu. Appelez l'abbé de Bonnevie. L'abbé de Bonnevie, s'étant fait donner des pouvoirs, se rendit chez Madame de Beaumont. Elle lui déclara qu'elle avait toujours eu dans le cœur un profond sentiment de religion, mais que les malheurs inouïs dont elle avait été frappée pendant la Révolution l'avaient fait douter quelque temps de la justice de la Providence, qu'elle était prête à reconnaître ses erreurs et à se recommander à la miséricorde éternelle, qu'elle espérait toutefois que les maux qu'elle avait soufferts dans ce monde-ci abrégeraient son expiation dans l'autre. Elle me fit signe de me retirer et resta seule avec son confesseur. Je le vis revenir une heure après, essuyant ses yeux et disant qu'il n'avait jamais entendu un plus beau langage, ni vu un pareil héroïsme. On envoya chercher le curé pour administrer les sacrements. Je retournai auprès de Madame de Beaumont. En m'apercevant, elle me dit, « Eh bien, êtes-vous contente de moi ?» Elle s'attendrit sur ce qu'elle daignait appeler mes bontés pour elle. « Ah ! Si j'avais pu dans ce moment racheter un seul de ces jours par le sacrifice de tous les miens, avec quelle joie je l'aurais fait. » Les autres amis de Madame de Beaumont, qui n'assistaient pas à ce spectacle, n'avaient du moins qu'une fois à pleurer, debout, au chevet de ce lit de douleur, d'où l'homme entend sonner son heure suprême. Chaque sourire de la malade me rendait la vie et me la faisait perdre en s'effaçant.
une idée déplorable vint me bouleverser. Je m'aperçus que Madame de Beaumont ne s'était doutée qu'à son dernier soupir de l'attachement véritable que j'avais pour elle. Elle ne cessait d'en marquer sa surprise et elle semblait mourir désespérée et ravie. Elle avait cru qu'elle m'était à charge et elle avait désiré s'en aller pour me débarrasser d'elle. Le curé arriva à 11 heures. La chambre se remplit de cette foule de curieux et d'indifférents qu'on ne peut empêcher de suivre le prêtre à Rome. Madame de Beaumont vit la formidable solennité sans le moindre signe de frayeur. Nous nous mîmes à genoux et la malade reçut à la fois la communion et l'extrême onction. Quand tout le monde se fut retiré, elle me fit asseoir au bord de son lit et me parla pendant une demi-heure de mes affaires et de mes intentions avec la plus grande élévation d'esprit et l'amitié la plus touchante. Elle m'engagea surtout à vivre auprès de Madame de Chateaubriand et de Monsieur Joubert. Mais Monsieur Joubert devait-il vivre ? Elle me pria d'ouvrir la fenêtre parce qu'elle se sentait oppressée. Un rayon de soleil vint éclairer son lit et sembla la réjouir. Elle me rappela alors des projets de retraite à la campagne dont nous nous étions quelquefois entretenus et elle se mit à pleurer. Entre 2 et 3 heures de l'après-midi, Madame de Beaumont demanda à changer de lit à Madame Saint-Germain, vieille femme de chambre espagnole qui la servait avec une affection digne d'une aussi bonne maîtresse. Le médecin s'y opposa dans la crainte que Madame de Beaumont n'expirât pendant le transport. Alors elle me dit qu'elle sentait l'approche de l'agonie. Tout à coup, elle rejeta sa couverture, me tendit une main, serra la mienne avec contraction. Ses yeux s'égarèrent. De la main qui lui restait libre, elle faisait des signes à quelqu'un qu'elle voyait au pied de son lit. Puis, reportant cette main sur sa poitrine, elle disait « C'est là ». Consternée, je lui demandais si elle me reconnaissait. L'ébauche d'un sourire parut au milieu de son égarement. Elle me fit une légère affirmation de tête. Sa parole n'était déjà plus dans ce monde. Les convulsions ne durèrent que quelques minutes. Nous la soutenions dans nos bras, moi, le médecin et la garde. Une de mes mains se trouvait appuyée sur son cœur qui touchait à ses légers ossements. Il palpitait avec rapidité comme une montre qui dévide sa chaîne brisée. Oh ! Moment d'horreur et d'effroi. Je le sentis s'arrêter. Nous inclinâmes sur son oreiller la femme arrivée au repos. Elle pencha la tête. Quelques boucles de ses cheveux déroulés tombaient sur son front. Ses yeux étaient fermés. La nuit éternelle était descendue. Le médecin présenta un miroir et une lumière à la bouche de l'étrangère. Le miroir ne fut point terni du souffle de la vie et la lumière resta immobile. Tout était fini.
Juste pour terminer, 3 lignes d'une 2 pages avant d'une lettre à Madame de Récamier. C'est toujours la nuit dans la campagne romaine. Il lui écrit que, quelquefois ne pouvant dormir, le soir il ressort. 11 heures, minuit. Dans la campagne romaine, qu'y fais-je ? Rien. J'écoute le silence. Et je regarde passer mon ombre de portique en portique, le long des aqueducs, éclairés par la lune. Et vous voyez, cette phrase, tout comme cette séquence admirable où l'on voit s'éteindre pas à pas et par degrés, inexorablement, jusqu'à son dernier souffle, jusqu'au miroir tendu par le médecin, Madame de Récamier, eh bien, c'est cette voix qui cherchait à s'entendre elle-même et à se réfléchir elle-même dans la Jérusalem du début de mon propos que nous venons de voir expirer sur le miroir que rien n'a terni, tant Dieu, Madame Récamier.
De Beaumont.
De Beaumont. Ah, Madame de Beaumont, pardon.